Je vois le niveau de la mer monter. Pas besoin d'être un scientifique pour le voir. J'habite ici, c'est chez moi, je le vois.
Et la COP23, ça vous dit quelque chose?
Ouais. Espérons que les dirigeants prendront des décisions sages. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes un petit pays, ok, hein, mais nous faisons quand même partie de la planète. Si on perd nos îles, on ira où?
Bonjour à tous. Ce lundi débute à Bonn la COP23, la conférence internationale sur le climat. L'ancienne capitale allemande a été choisie parce que le pays qui préside la conférence n'était pas en mesure de l'organiser. Il s'agit des Fidji, petit archipel du Pacifique, au bout du monde pour nous, peuplé de moins d'un million d'habitants, répartis sur moins de 20 000 km². Les Fidji présidant la COP, c'est pourtant tout un symbole. Contrairement à d'autres petits états insulaires, comme les Maldives, elles ne sont pas menacées de disparition pure et simple. Le relief y est volcanique, les habitants pourront toujours se réfugier sur les hauteurs. Mais le réchauffement climatique fait monter le niveau de la mer de 6 mm chaque année. Par endroits, la salinisation rend les terres agricoles côtières incultivables, les inondations se multiplient. Et certains villages de pêcheurs ont d'ores et déjà été relocalisés vers l'intérieur des terres. Quant aux cyclones, dont la violence, et non la fréquence, serait selon certains de plus en plus grande à cause du réchauffement, ils font planer une menace permanente. Winston, il y a un an et demi, a été historiquement la plus violente tempête ayant touché terre dans l'hémisphère sud. L'archipel n'a pas encore pansé ses plaies, et quand Sandy Dauphin est allé sur place, une nouvelle saison cyclonique allait commencer.
Interception, le magazine de la rédaction.
Il est en train de couper avec une machette les noix de coco. Hop. Nous sommes dans le village de Vunidogoloa, enfin l'ancien village, tout près de la mer, puisque le village a été relocalisé. On voit que la nature a repris ses droits ici, la végétation très verte pousse partout. Il reste des squelettes de maisons à quelques dizaines de mètres de la mer. Un villageois est venu avec nous et en fait il a grimpé en haut d'un cocotier pour aller nous cueillir quelques noix de coco. Nous sommes avec le chef du village, bonjour. And what is your name?
My name is Sailosi Ramatu.
C'est l'ancien village ici?
This is the old village of Vunidogoloa.
C'est l'ancien village de Vunidogoloa.
Plus personne n'habite ici?
No one lives here anymore.
Plus personne n'habite ici.
This is my first house.
Alors, le monsieur nous dit, ici, c'est ma première maison. Alors, il faut imaginer, on est sur la plage, juste à 3 mètres de l'eau. Et donc, il n'y a plus rien, bien sûr.
I pulled away from here because the water, 1980.
Alors, dans les années 80, il nous explique qu'il avait déjà reculé sa maison qui était donc ici, vraiment sous la plage, sous le cocotier qu'on voit là. Et il avait déjà reculé une première fois. Et donc, visiblement, il est allé encore plus loin une deuxième fois. On va aller voir ce qui reste du village. So you are used to moving all the time.
Yeah, I moved three times within this village.
Ah, vous avez déménagé trois fois dans ce village déjà.
Before having the fourth relocation to the new site.
Donc la relocalisation, c'est la quatrième fois qu'il déménage. Il recule à chaque fois. Et là, bon bah, il a été relocalisé dans un nouveau village.
Come.
On rentre dans une maison abandonnée. Donc bon, il reste quand même. Le plancher en bois, les murs, le toit. Mais voilà, il n'y a plus rien à l'intérieur. Pourquoi avez-vous dû déménager?
C'est à cause du changement climatique et de ses manifestations. La montée des eaux, l'érosion et les inondations.
Vous aviez beaucoup d'inondations?
Oui. Oui, on en avait souvent des inondations. Car il pleut beaucoup de ce côté des Fidji. Plus il pleuvait, plus il y avait d'inondations. Et puis, au moment des grandes marées, l'eau rentrait dans le village.
Vous nous montrez le village ? Oui. Donc la végétation a vraiment repris le dessus dans le village. On est obligé de traverser des herbes hautes d'environ un mètre.
This is the village ground. When we grow up, as kids, we used to play in this village ground.
Et monsieur nous explique ici, c'était le centre du village, donc ici il y a de l'herbe aujourd'hui. C'est complètement recouvert d'herbe folle et avant c'était l'endroit où il jouait. Il y avait l'église qui était là-bas mais qui n'existe plus.
C'était dur de quitter cet endroit.
It was very hard.
Oui, c'était très dur.
You know,
vous savez,
we lived the whole life here.
And the people nous avons vécu toute notre vie ici. Et les gens pensaient que ce serait leur maison pour toujours. Ça a été comme un déchirement. La dernière semaine où nous avons habité ici, nous avons fait un festin. Avant de partir, nous avons remercié cette terre occupée par nos parents.
Alors, on est de retour sur la plage.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui provoque le changement climatique? Donc le monsieur nous explique qu'ils ont quand même une part de responsabilité dans la mesure où pendant des années, ils ont utilisé le bois de chauffe de la mangrove qui avec ses racines dans l'eau empêchait l'érosion et donc une grande partie de la mangrove a rétréci, la rivière en conséquence s'est élargie, donc c'est une des causes de l'érosion. Do you still use wood from the mangrove?
No.
Nous quittons le vieux village de Vunidogoloa pour visiter le nouveau site construit en 2014. C'est à environ 3 km à vol d'oiseau. Une trentaine de nouvelles maisons ont été bâties sur une colline.
Hello.
Oh, Papa here. Hello.
And so this is your new house?
Yes.
Donc il nous montre sa nouvelle maison.
Non, 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 ça va être là.
Nous sommes dans la nouvelle maison du chef du village. Donc c'est un joli petit bungalow vert, comme toutes les autres maisons de ce village. C'est un petit peu le village modèle. À l'extérieur, il y a un panneau solaire, il y a de l'eau courante.
Vous pouvez nous décrire votre nouvelle maison?
Oui, c'est ma nouvelle maison. Après relocalisation, avec salle de bain et toilettes, ce que nous ne pouvions pas avoir en bas sur l'ancien site.
La grosse nouveauté, c'est qu'ils ont une salle de bain et des toilettes ici, donc c'est vraiment un luxe.
Vous aimez votre nouvelle maison?
Oui. Venez, on peut aller voir dehors si vous voulez.
Nous avons un cassava.
Nous faisons pousser du cassava, notre aliment de base, mais aussi un autre tubercule.
Vous êtes autosuffisant?
We are not buying anything.
Okay, donc ils sont en autarcie alimentaire, puisqu'ils nous expliquent qu'ils plantent tout ce dont ils ont besoin. La nourriture de base ici, c'est un tubercule qu'on appelle le cassava, une espèce de pomme de terre en fait, et donc ils les font pousser autour des maisons. C'est très vert, on voit des fruits, des plantes un peu partout, un joli plan d'ananas.
Et tout ceci, vous ne l'aviez pas dans le vieux village?
Nous ne pouvions pas faire pousser tout ceci sur l'ancien site. Même les papayes ne mûrissaient pas, parce que le sol était contaminé par le sel de l'eau de mer.
Il y a dans le village, bananiers, papayes, ananas, aubergines, chaque famille a son propre potager.
Mango tree.
Ah oui, un arbre à mangue magnifique.
Yeah.
Nous sommes dans les locaux des services météorologiques de Fidji et nous avons rendez-vous avec le directeur Ravin Kumar.
L'impact du changement climatique, c'est que la température de l'air augmente. Une hausse en moyenne de 0,9 degrés au cours du dernier demi-siècle. On constate également une augmentation de la température en journée. Il fait 1,2-1,3 degrés de plus par rapport aux données de 1961 et avant. Donc, quand on compare, la température augmente en moyenne plus rapidement à Fidji qu'ailleurs.
Est-ce que vous constatez aussi une montée des eaux ?
Certainement, d'après les relevés satellites, le niveau monte en moyenne de 6 mm par an. Et encore une fois, cette augmentation est plus rapide que ce que l'on mesure globalement.
Et quelles sont vos prédictions pour les cyclones ? Ces dernières années, ils sont plus violents, plus fréquents ?
Oui, depuis 2014, nous voyons arriver des cyclones de catégorie 4 ou 5 chaque saison. En 2014, c'était Yann, puis Pam. En 2016, c'était Winston, puis Donna. Donc, ces quatre dernières années, on connaît des cyclones tropicaux de catégorie 5.
Et c'est à cause du changement climatique ou c'est trop tôt pour le dire ?
C'est trop tôt pour le dire que c'est à cause du changement climatique. Mais d'après les projections, on pense qu'à l'avenir, le nombre de cyclones va diminuer et leur intensité croître. La situation actuelle préfigure donc peut-être ce qui nous attend à l'avenir. Ce que nous dit la science, c'est que si l'atmosphère est chaude, si l'eau de mer est chaude, cela peut favoriser l'apparition de graves cyclones. Et ces cyclones peuvent être dévastateurs. On l'a vu, ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est de construire des communautés résilientes pour limiter les dégâts causés par ces cyclones importants.
À Fidji, deux mondes cohabitent. Sur l'eau, des doulas, les barques de pêcheurs traditionnelles, croisent parfois les jet-skis des vacanciers. L'archipel est une destination touristique prisée, haut de gamme. Décor féerique pour voyage de noces, paradis des plongeurs. Nous sommes dans un hôtel de luxe à Savu Savu. Le complexe Jean-Michel Cousteau, le fils du commandant, a prêté son nom et ses conseils à cet établissement américain qui se veut éco-responsable. L'hôtel a son propre biologiste marin, Johnny.
Mon rôle est de sensibiliser les clients de l'hôtel à l'environnement de Fidji.
Et c'est quoi un tourisme éco-responsable ici ?
On a instauré toute une série de pratiques dans l'hôtel. Déjà, si vous regardez la conception des maisons, ce sont des burets, des bungalows traditionnels fidjiens. Il n'y a pas d'air conditionné. On a notre propre potager bio, on recycle les déchets verts. C'est pour ça que l'hôtel porte son nom, pour montrer qu'on peut vivre une vie fabuleuse de luxe, mais dans le respect de la nature.
Donc là, on va prendre un bateau et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe sous l'eau.
ready and we can head out.
Okay. On met nos pannes, notre masque et notre tube.
So I'll be your guide in the water, texting you, showing you everything that's down there.
Bon, elle est très bonne, hein. Je ne peux pas vous dégoûter, mais...
Right, super on this side, huh?
Bon, c'est absolument magnifique, il y a des poissons multicolores, bleu électrique, vert. On a vu plein de différents types de coraux. Can you tell us what kind of
Vous pouvez nous dire ce qu'on a vu comme coraux?
Oh, we saw the spaghetti soft corals, the mushroom soft coral.
On a vu des coraux mous qu'on appelle spaghetti ou champignons, des demoiselles au néon et quelques poissons Napoléon.
Quel est l'impact du changement climatique ici sur la vie marine?
Oh, l'impact est significatif. Hein. Il y a des poissons qui ne viennent qu'à certaines saisons. En ce moment, à Fidji, c'est l'hiver. On devrait avoir beaucoup de maquereaux, mais on n'en voit pas autant qu'avant. Pareil pour certains poissons Napoléon. Les gros, on n'en a pas vu cette année. L'eau devient trop chaude.
Quel effet ça peut avoir sur le tourisme?
Eh bien, les gens viennent ici pour plonger, pour voir des coraux et des poissons. Ça fait partie de l'aventure fidjienne. Attention, on n'a pas d'échelle, donc il faut se hisser. Hein.
Wait, I can't laugh. If I laugh, I won't.
Nice, man. It's fine. There you go. There you go. Good. Perfect.
Donc vous disiez, vous sentez le changement climatique.
Oui, je le vois. Il y en a qui disent que ce n'est pas vrai, mais si vous restez sur l'île, vous verrez les changements. Ça fait 12 ans que je travaille chez Cousteau, je vois le niveau de la mer monter. Pas besoin d'être un scientifique pour le voir. J'habite ici, c'est chez moi, je le vois.
Et la COP23, ça vous dit quelque chose?
Ouais. Espérons que les dirigeants prendront des décisions sages. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes un petit pays, ok, hein, mais nous faisons quand même partie de la planète. Si on perd nos îles, on ira où?
Alors nous sommes à Karoko, c'est environ 2 heures de route de la principale ville Savu-Savu. Et la particularité de ce village côtier, c'est qu'en raison de la montée des eaux, les autorités ont construit ici une digue. Donc les gens d'ici vont nous présenter cette digue et nous attendent parce que quand on arrive dans un village, on doit d'abord aller dans la maison du chef du village, on doit lui présenter un cadeau. Donc la personne qui nous accompagne va faire ce cérémonial. Elle lui apporte une plante qu'on appelle ici le kava. Avec cette plante, on fabrique une boisson enivrante. Et donc la tradition veut qu'on offre ce kava au chef du village.
Alhamdulillah. Bonjour, hello.
Bonjour, je m'appelle David Asenido et je suis le régisseur du village de Karoko.
Avant, le village allait plus loin dans l'océan. Que s'est-il passé?
Avant, la plage s'étendait dans la baie jusqu'à là-bas, de cette mangrove à celle-là. Aujourd'hui, le front de mer a reculé d'environ 800 mètres.
Et que se passe-t-il? Il y a des inondations dans le village? C'est tous les combien? Une fois par an?
Chaque mois, nous avons une grande marée et c'est là que ça se produit.
Alors, l'eau rentre et que se passe-t-il?
Quand il y a une tempête, l'eau rentre, ça ramollit le sol, ça fragilise les fondations des maisons et en plus, ça fait déborder les fosses septiques. Et on patauge là-dedans, ce n'est pas sain.
Alors depuis, ils ont construit donc une digue en 2015. Quelle est la situation aujourd'hui ?
La digue empêche l'eau de rentrer devant le village, mais elle est fragile aux deux extrémités et l'eau rentre par là.
Sur la digue, elle fait environ 200 mètres de long sur 1 mètre de hauteur. Bon, c'est une petite digue hein, construite avec des pierres qui barrent tout le village côté plage. On est avec le responsable local du gouvernement fidjien. Hello.
My name is Kalvate Rabuka.
Bonjour, je suis Kalvate Rabuka et je suis l'administrateur de la province.
Alors, on nous a dit que cette digue fuyait. Comment ça se fait?
Yes, this wall was a precautionary measure.
Oui, cette digue était une mesure préventive pour que l'eau ne pénètre plus dans le village à marée haute.
What has happened is on the ends of this two seawall.
Mais voilà, elle continue d'entrer par les deux bouts de la digue aux deux extrémités.
Mais c'est une nouvelle façon?
It's not badly built.
Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on était loin de se douter que même après la construction de la digue, le niveau de la mer continuerait de monter. L'eau s'infiltre petit à petit.
Alors c'est quoi la solution aujourd'hui ?
Cet ouvrage a été construit par l'agence de développement américaine, USAID. Nous leur avons demandé de revenir. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose pour améliorer la digue.
Et ils reviennent quand ?
Je ne suis pas sûr, mais ils ont confirmé qu'ils reviendraient.
Et pour ce village, déménager, c'est la solution?
Pour l'instant, on compte sur la digue, mais on y réfléchit. En attendant, on dit aux gens que s'ils veulent construire de nouvelles maisons, il faut s'éloigner du rivage. On ne peut pas continuer de construire des digues aussi longues, 172, 180 mètres, ça coûte cher. D'un autre côté, le niveau de la mer va continuer de monter. Donc, je supplie gentiment, je demande à ce qu'on travaille tous ensemble, car dans le Pacifique, sur les côtes, on est continuellement confronté à ce problème. Nous avons besoin d'aide pour construire des digues ou trouver d'autres solutions afin que les villages puissent vivre harmonieusement.
Ah! Nous sommes dans le village de Vouni Savi Savi, lui aussi victime de l'érosion. Pas facile de dire à des pêcheurs qui ont vécu toute leur vie près de l'eau qu'il faut déménager pour aller plus loin, plus en hauteur. Madame, vous êtes née dans ce village, vous accepteriez d'être localisée dans un endroit plus à l'abri ?
On ne peut pas aller plus haut. Notre chef nous a demandé de ne pas bouger d'ici, sinon ce serait comme si on abandonnait la terre de nos ancêtres, abandonner nos responsabilités au sein du village. Les jeunes, oui, ils peuvent construire de nouvelles maisons, plus en hauteur.
Est-ce que ça crée des divisions au sein du village ?
Oui, ce n'est plus tout à fait pareil entre nous. Désormais, quand le régisseur du village demande aux jeunes de revenir faire des corvées, ils traînent les pieds pour faire le trajet et des fois, ils ne viennent même pas.
Là, on se trouve sous le préau du village, tout le monde est réuni. Et on est autour, je ne sais pas à quoi ça ressemble, un grand saladier avec des trépieds. What is that?
C'est quoi?
C'est du kava. C'est une plante.
Et ça sert à quoi?
C'est culturel à chaque fois qu'on se retrouve. C'est la boisson fidjienne que l'on boit entre nous. C'est très fort.
Et comment vous la fabriquez?
On la coupe, on la sèche, on la pile et on la mélange avec de l'eau.
Et vous en buvez souvent?
Very often. Oui, tous les soirs.
Donc, je vais goûter le kava. Donc ça se boit dans une... C'est de la noix de coco, coconut dans une coquille de noix de coco. C'est bon. It's good. C'est un goût de plante, en fait. Hein. C'est un peu fort, un peu amer. Bon, c'est une boisson enivrante. Hein. On va peut-être mettre en bois. De la même manière que lorsqu'on arrive dans un village, il y a un cérémonial, quand on le quitte, on doit aussi s'excuser. Donc c'est ce qui vient de se passer. Les gens qui nous ont amenés ici se sont excusés auprès des villageois et donc il y a eu un échange de paroles. Et voilà, nous pouvons partir, on nous a souhaité bonne route. Koiropita, un village qui est présenté comme un village modèle. On aperçoit des dizaines et des dizaines de petites maisons bleues en tôle ondulée, toutes pareilles, avec des volets jaunes, des arbres fruitiers, des routes bien entretenues. Koiropita, ça veut dire le village de Peter. Et Peter, c'est ce monsieur à la tête d'une association humanitaire que l'on va rencontrer. Bonjour.
Je suis Peter Drysdale. J'ai vécu toute ma vie au Fidji. Nous sommes dans le village modèle de Koroipita, environ 3,5 km de la ville de Lataoka. Nous avons ici des familles très pauvres. Nous les installons dans des maisons anti-cyclones. Nous leur donnons accès à l'école. Nous les aidons à développer des projets pour générer des revenus et les rendre indépendants. L'objectif est que ces familles mettent de l'argent de côté pour qu'un jour, elles puissent s'installer en ville.
Et quelles sont leurs obligations ?
Ils doivent faire progresser leur famille. 100% de présence à l'école, un potager pour être autosuffisant. Globalement, il faut respecter les règles du village, avoir un projet pour générer des revenus, être productif, ne pas traîner en buvant du cava.
On rentre dans cette maison ?
Oui, c'est l'atelier de confection.
Hello.
Ici, on est dans l'atelier confection du village. Il y a deux dames qui sont là, qui travaillent ici et qui fabriquent donc des sacs en tissu.
This is the measuring board.
Donc là, la dame mesure le tissu et le découpe.
Usually we go and buy the piece of cloth factories they about to throw to reuse, eh?
Donc en fait,
it's not wasted, eh?
Ce sont des chutes de tissu qu'on leur donne. Vous habitez ici depuis combien de temps?
6 years.
6 ans. Et avant?
Right from Randy
Island. Randy Island.
Et pourquoi vous êtes venu ici?
Schooling.
Pour l'école.
I have 8 kids.
J'ai 8 enfants.
If I'll be living in the island with that many kids.
Si j'habitais encore sur mon île, certains iraient à l'école, d'autres non. Ici, c'est bien.
C'est quoi la règle la plus contraignante ici ?
Je pense que toutes les règles sont bonnes. Elles ont une raison d'être pour votre famille. Elles sont bénéfiques non pas pour celui qui les fait, mais pour celui qui les respecte.
Vous remarquerez le plafond. Vous savez, c'est toujours le toit le point faible d'une maison. Ce toit est très solide. Regardez le nombre de poutres et leur taille immense. Toutes ces maisons ont traversé le cyclone Winston. Des vents jusqu'à 300 km/h et nous n'avons eu aucun dégât.
Et comme dans tous les villages à Fidji, ici, on joue au rugby après le travail ou après l'école le soir. Nous sommes arrivés à Suva, la capitale des îles Fidji, située sur la côte sud-est de l'île principale. C'est ici que siège le Parlement fidjien. C'était également ici qu'il y a l'Université du Pacifique Sud. Nous avons rendez-vous avec l'un de ses professeurs, le docteur Antoine Nyert. Il est biologiste marin. Il travaille pour un organisme très connu ici, le PACE, le Centre pour l'environnement et le développement durable. Donc merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Donc ici, on se trouve exactement
à Lodala Beach.
Lodala Beach, c'est une petite ville qui est...
C'est une banlieue de Suva, ouais. Qui est entre l'aéroport et le centre de la ville.
C'est une banlieue très verdoyante.
Vous avez une très belle maison de plein pied en bois qui donne sur l'océan.
Là, vous voyez tout de suite le problème. Parce que avant, le terrain, il allait jusqu'à 3 mètres, 4 mètres de là.
Donc là, on est sur l'océan.
Oui, enfin, si vous appelez ça l'océan avec toutes les saletés qu'il y a dedans. Ce qu'on voit, c'est qu'en chaque cyclone, il y a beaucoup de terre qui s'en va. Donc, vous voyez que, par exemple, ici, il y a un grand trou, en fait, ici.
Oui, alors on est quand même étonné. Oui, il y a des pneus, beaucoup de plastique.
C'est vraiment un dépotoir. Donc c'est un gros problème. Et vous voyez que l'eau n'est pas vraiment bleue. C'est parce qu'on a là la station d'épuration des eaux qui déverse souvent des déchets pas très épurés. Donc il y a beaucoup de pollution, il y a des bactéries. Et il n'y a pas cette sensibilité à Fidji encore de protéger l'environnement. Ils essaient, mais c'est dur parce que les gens considèrent toujours la mer comme un dépotoir.
Pourtant, les Fidji se présentent toujours comme un petit paradis environnemental.
Oui, pour les touristes, mais comme vous voulez, ici, ce n'est pas un endroit touristique.
Donc il y a beaucoup de travail à faire, vous dites, sur la défense de l'environnement.
Oui, c'est vraiment récent l'effort environnemental à Fidji parce qu'avant, il n'y avait pas cet effort-là, il n'y avait pas la sensibilité au changement climatique. Donc je crois que ça prendra peut-être une génération pour que maintenant les jeunes soient sensibilisés à ça, par exemple, de ne pas jeter les déchets n'importe où. Donc ça prendra du temps, je pense. Mais il ne faut pas que ce soit trop tard aussi.
Quels sont les principaux effets sur la vie marine que vous observez ici?
Le premier effet qu'on voit, c'est l'augmentation de la température de l'eau. Donc la première chose qui est affectée, c'est les coraux. Donc on voit du blanchissement de corail presque chaque année maintenant.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le phénomène?
Alors, les coraux sont sensibles à une température au-delà de 29 degrés. Quand ça dépasse 29 degrés, le corail est stressé. Donc, le corail, c'est une cohabitation entre une algue et un polype. Donc, c'est un animal et une plante. Donc, quand la température augmente, ce qui se passe, c'est que l'algue est éjectée du corail et le corail blanchit. J'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur le corail et ils me disent qu'un peu partout à Fidji, il y a du blanchissement, surtout au mois de février-mars, chaque février-mars. Mais ils observent que le corail est quand même résistant à Fidji. Il y a de la résilience, mais ça prend 2 ou 3 ou 4 ans pour revenir à l'état normal. Donc si pendant cette période-là, on a 2 ou 3 cyclones qui se suivent, le corail n'a pas le temps de récupérer.
C'est-à-dire si le cyclone passe alors que le corail est affaibli, ça arrache le corail, c'est ça?
Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, un cyclone, c'est un moteur qui fonctionne avec la température. Quand l'eau se réchauffe, ça favorise la production des cyclones. Ouais. Et normalement, ils débutent du côté du nord, par exemple au nord de Fidji, ils naissent vers l'équateur et puis ils se déplacent vers le sud, sud-est. Et c'est ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a 2 ou 3 cyclones qui se suivent au mois de février et mars. Et donc il y a beaucoup de problèmes de blanchissement de corail, d'érosion, d'inondation, et puis de dégâts matériels surtout, et de pertes humaines à Fidji. Avec Winston, je crois qu'il y a eu 44 morts et des millions de dollars de dommages. Et il y a encore des gens à ce jour qui vivent dans des tentes. Maintenant c'est 2016. On est en 2017. Donc s'il y a un autre cyclone maintenant, que font faire ces gens? Ils vont être vraiment sans abri. Et le temps presse. Et vous voyez qu'avec les cyclones, le réchauffement climatique, les inondations, et les désastres auront un grand impact sur l'économie fidjienne. Ici, l'économie n'est pas forte. Ils ne peuvent pas aussi investir beaucoup dans l'environnement. Parce que la priorité sera pour loger les gens, nourrir les gens, et il faudra aussi des ressources. Donc c'est un dilemme, si vous voulez.
Merci beaucoup.
De rien.
«
En février 2016, Winston, le plus puissant cyclone à avoir touché terre dans l'hémisphère sud, a ravagé une partie des Fidji. Aujourd'hui encore, dans le nord de l'île de Viti Levu, des habitants dorment sous des tentes. Une ONG a accepté de nous emmener sur place, dans la région de Rakiraki.
Je m'appelle Reggie. Je suis militante au sein de l'association DIVA et bénévole à la Croix-Rouge.
En arrivant, on a pu voir que la route avait été refaite, les poteaux électriques sont de nouveau debout, donc il y a quand même une grosse réhabilitation.
Après le passage de Winston, la plupart de ces villages étaient complètement isolés. Les gens avaient interdiction de venir en raison du risque d'épidémie, parce qu'il y a eu des maladies après le cyclone.
C'est quoi ça derrière nous?
Cette citerne, elle est là pour aider les habitants parce qu'au moment de Winston, il n'y avait plus d'eau. Les canalisations avaient été coupées. Et le Rotary Club a fait don de cette citerne pour alimenter les résidents en eau.
Donc Reggie va nous emmener dans d'autres villages un peu plus loin où là les gens vivent encore sous des tentes, n'ont pas été encore relogés après un an après l'ouragan. Nous sommes dans le village de Mataveilevu. À l'entrée, il y a un panneau avec des conseils pour reconstruire sa maison en plus solide. Après le passage de Winston, le gouvernement a versé 7 000 $ fidjiens, environ 3 000 € aux habitants pour rebâtir leur maison. Mais voilà, la construction n'est pas terminée. Certains villageois disent que cette somme est insuffisante.
I'm still sleeping in this one at the moment.
Le monsieur nous explique qu'il dort encore sous cette tente.
I'm still sleeping here.
Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus?
Yeah, they brought from China this one.
Visiter la tente. Donc, il habite toujours sous les tentes bleues qui ont été fournies par la Chine.
During the Winston, my house was here. This is the floor of my old house. This one.
D'accord. Donc, il utilise pour le plancher de son ancienne maison pour construire, pour fabriquer les murs de sa nouvelle maison. Ok.
By the time Winston. I was inside my house.
Here.
Yeah. And once my roof of the house get flown away, all of my family ran to the community hall there.
Quand le cyclone est arrivé, ils étaient dans cette maison. Alors faut imaginer, ce sont des petites maisons en bois, hein, assez fragiles. Le toit s'est envolé et après il explique que toute la famille a couru vers le centre communautaire. Car le centre municipal est construit en dur.
Oui, c'est du solide. Le cyclone a été violent. C'était très effrayant, très violent.
Vous pouvez nous montrer le centre d'évacuation?
Oui, oui, on y va.
Ici, c'est l'abri où les gens peuvent venir en cas de cyclone. Donc, c'est un immeuble en béton, je dirais, environ 80 mètres carrés.
At the moment, it's not enough for the village.
C'est pas assez grand pour le village.
So we are still trying to make another construction over there. We still collecting some money.
Donc à côté, il y a un autre bâtiment en construction, le futur abri anticyclone. C'est plus grand, mais le chantier est inachevé. Alors, les murs ne sont pas montés, il n'y a pas de toit. Et le monsieur nous explique qu'il tente de collecter des fonds, mais pour l'instant, ils n'ont pas assez de financement.
Was the whole village destructed?
Et tout le village a été détruit?
Yeah, whole village.
Alors là, on voit que ça a été quand même reconstruit. Hein. Il y a peu de gens qui vivent encore dans des tentes. Mais à part l'école maternelle, les maisons étaient reconstruites à l'identique, en tôle ondulée. Donc si un nouveau cyclone de catégorie 5 frappe encore une fois cette région, eh bien tout sera par terre.
All go down again, all go down again.
Thank you.
défi climatique, c'était un reportage de Sandy Dauphin. Prise de son Thomas Robin, mixage Rémi Quincet, réalisation Michel Soulier, assisté d'Alexia Lacour et Stéphane Koum. À la semaine prochaine.
Merci Philippe Bardeneau. Dimanche prochain, Interception abordera la question du rallongement du délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs avec un reportage signé Delphine Gautchot.